Lorsque vous écoutez cette musique, vous avez compris, on se met dans l'univers de la Wandaïance avec James. On aura bien sûr un invité au téléphone, un Nantais, un ancien international du football africain notamment, qui a évolué dans le championnat de France, avec qui nous allons nous entretenir dans quelques instants, avant de retrouver Amine Sonidé qui sera donc notre invité tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons partir au téléphone. Est-ce qu'il est avec nous? C'est monsieur James Thomas
de Séville.
Thomas de Séville est-il avec nous? Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, il est avec nous, il est avec nous en direct. Alors, présentation de
bonjour,
Thomas de Séville.
Bonjour Thomas.
Avec James.
Bonjour Thomas.
Oui, bonjour.
Alors, Thomas de Séville, hein, c'est un ancien grand sportif, grand professionnel.
Et tu nous endors là, James, qu'est-ce qui se passe?
Mais
il
non,
est
mais...
10h45 et tu parles comme si il était 7h du matin.
Mais non, parce que hier, non, j'ai attaqué un tout petit peu d'une manière,
non, on va dire... faut attaquer les auditeurs.
Ben oui, je vais attaquer,
pas
là, les
faut
auditeurs
pas les endormir.
Tout à fait, en tant que sportif, il faut être plus virulent, c'est ça.
En plus, un sportif, donc voilà. On attend de la pêche de ta
part. On attend de la pêche, c'est vrai, il a raison, Thomas. Désolé, Thomas, bonjour Thomas, d'être avec nous. Donc, Thomas de Séville, alors, c'est un ancien footballeur professionnel d'origine togolaise.
Oui.
Voilà, il a la particularité d'appartenir à une grande famille de sportifs professionnels,
ouais.
Notamment le papa, Pierre, mm-hmm. qui était un grand footballeur professionnel, ailier des débordements. Nous avons reçu tout le temps dernièrement, qui était un spécialiste de l'aile. Son papa aussi l'était. Il a joué à Tours, justement, son véritable fief, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ça s'est pas bien passé, le papa, hein, il s'agit, hein. Et il est revenu sur Tours. Et Thomas de Séville, lui, a débuté sa carrière à Dunkerque.
Mm-hmm.
Voilà, il a fait pas mal de clubs, hein, Châteauroux, alors, Valence.
Je n'ai pas débuté à Dunkerque. Hein. J'ai plutôt fini ma carrière à Dunkerque.
Ah, fini, autant pour moi.
Tours, parce qu'on est originaire de Tours. J'ai commencé à Tours, je suis parti à Châteauroux. Je suis parti à Valence. Ensuite, je suis parti au Stade de Reims et Valenciennes, Nantes. Je suis parti en Angleterre. Je suis parti en Thaïlande et je suis revenu à Valenciennes. Pour
voilà.
Passer le diplôme d'entraîneur et j'ai fini à Dunkerque en tant qu'entraîneur et joueur.
Voilà. Et Phil, voilà. On ne pouvait pas mieux présenter Thomas mm-hmm. que Thomas lui-même.
D'accord. Alors, donc c'est important.
C'est très important.
Ouais.
Donc je suis très content, Thomas, de m'avoir repris.
Et voilà.
Pour resituer les choses dans leur contexte.
Et exactement. Donc j'ai eu la chance dans ma carrière de faire 3 montées. Une avec le Stade de Reims, avec Valenciennes et avec le FC Nantes. Et puis, pour la cerise sur le gâteau, ça a été le Mondial 2006 avec le Togo. Où j'ai pu jouer 2 matchs. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais, ça.
Ça, c'est sûr.
Donc, voilà.
Tu es un mondialiste à vie.
Exact.
C'est magnifique, ça.
Ah.
Et donc, aujourd'hui, tu sais... Ça fait quelques semaines, une semaine ou deux, avec tous nos invités, on évoque
une quinzaine de jours
voilà. Où nous évoquons une thématique que je tiens beaucoup, hein, moi je le précise tout le temps, moi je pense que tout le monde va y passer, c'est la reconversion du sportif de haut niveau et précisément le footballeur que tu étais. Je voudrais te poser une question, à quel moment de ta carrière, est-ce au début, au milieu ou à la fin de la carrière, que tu t'es penché sur ce sujet?
Pour ma part, c'était au milieu de ma carrière. À un moment donné, on doit tous à un moment basculer et savoir si on peut transmettre ce qu'on a appris. Et moi, j'ai passé naturellement le diplôme d'entraîneur pour pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris et le plaisir que le football m'a apporté, pour pouvoir le retransmettre à des jeunes. Et c'est comme ça que ça m'est venu de pouvoir être entraîneur.
De rester. Comme beaucoup de sportifs alors, tout naturellement dans le milieu du sportif, puisque tout de suite tu t'es projeté dans le sport, dans un secteur que tu maîtrises bien. C'est par sécurité,
exactement,
je pense.
C'est ce qu'on maîtrise le plus, c'est ce qu'on a fait le plus, c'est ce qu'on aime le plus. Et voilà, donc j'ai eu aussi cette chance d'être recruteur pendant 3 ans pour le Standard de Liège. Où j'ai pu passer aussi de l'autre côté et ça m'a apporté un œil différent aussi sur le football, ce que j'ai bien apprécié. Et puis, avec mon diplôme d'entraîneur, j'ai évolué aussi en tant qu'entraîneur, puis entraîneur adjoint aussi à Boulogne-sur-Mer, auprès de coachs qui t'apportent des choses, qui te donnent un bagage supplémentaire. Et c'est ça qui est essentiel dans le fait de basculer, c'est le fait de prendre des connaissances différentes.
Voilà, cet aspect, la prise de connaissances sur le terrain, c'est très important. J'avais aussi une question... pour rebondir sur ce dernier rôle de recruteur, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Ça consiste à quoi être recruteur pour un club, et quel est le périmètre où tu exerces en tant que recruteur?
Voilà, moi j'étais recruteur pour le Standard, donc l'important moi j'avais un œil très aiguisé sur les joueurs africains, normal parce que je suis africain, donc je me déplaçais beaucoup en Afrique, je faisais beaucoup de tournois, on cherchait des jeunes. Les profils, c'était vraiment d'apporter quelque chose aux jeunes de l'académie que l'on n'avait pas, donc d'apporter des joueurs différents avec une force différente. Moi, j'aime bien la culture africaine parce que il y a beaucoup de talent et c'est très perfectible et il y a beaucoup de potentiel. Voilà.
Raphaël. Beaucoup de potentiel, beaucoup de travail. Alors, aujourd'hui, quelle lecture vous faites justement de ce milieu-là, vu que vous êtes recruteur? Comment c'est organisé en général? Parce que bon, il y a parfois des jeunes qui se retrouvent comme ça, abandonnés sur le marché, hein, parce que on tombe sur un recruteur. Moi, je les appelle les charognards, parce qu'ils sont responsables justement de la détresse que vivent certains jeunes que l'on va chercher en Afrique. Et qui se retrouvent parfois sans papier en France, en Belgique, un peu partout, hein, lorsqu'on écoute leur histoire. Mais vous, concrètement, comment ça se passe?
Alors, je ne suis que recruteur, mais au niveau du Standard, c'était vraiment bien réglé. Il y avait une académie, le joueur venait, et il faisait son test. Si ça se passait bien, eh bien il y avait une promesse de contrat. Mm-hmm. Sinon,
et si ça se passait mal, il repartait au pays?
Ben, ils repartaient au pays, ou après il y a certains agents qui voulaient faire la tournée de certains clubs. Mmh. Voilà, peut-être que ça se passe pas bien dans un club, il faut aussi prévoir de le faire jouer dans un autre club. Mmh. Le but, c'est que le visa d'une n'expire pas, parce que les demandes de visa sont vraiment données au compte-gouttes. Et puis il faut que le joueur il soit dans les meilleures dispositions pour pouvoir bien se montrer. Donc par moment, c'est pas facile. Les recruteurs ne sont pas tous des charognards. Au contraire, ils veulent essayer de donner de l'espoir à des jeunes. Et des fois, c'est très difficile d'avoir des visas rien que pour faire venir le ouais. joueur.
C'est devenu très compliqué. Et du coup, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit, hein, des autres recruteurs qui profitent du séjour pour proposer d'autres tests, donner d'autres opportunités. C'est une manière là d'optimiser un tout petit peu ce temps très court et donner beaucoup plus de chance, si je comprends bien, à ces joueurs qui ne sont pas forcément pris au Standard, mais qui peuvent être pris ailleurs. C'est bien ça?
Exactement, ça leur permet de pouvoir avoir un autre point de chute, surtout bien, comme je le répète souvent, un temps d'adaptation. Un joueur qui vient d'Afrique doit s'adapter à l'Europe, ne serait-ce que par la différence de température, la nourriture. Voilà, il y a une adaptation. Des joueurs africains, des fois, ne mangent pas comme il faut, mm-hmm. n'ont pas la diététique sportive adéquate. Et le fait de venir en Europe, de manger trois fois des choses qu'ils n'ont pas l'habitude peut-être aussi de manger en Afrique, mm-hmm. ça change leur perception et ça mm-hmm. peut changer tout de suite leur physique.
Tout à fait.
Parfois ils sont mieux, parfois ils sont moins bien.
Tout à fait.
Et ça, c'est des paramètres qu'on ne peut pas savoir avant.
Exactement. Je suis très content que tu aies mis l'accent sur ce point de diététique. Mais tout est contextuel. Hein. C'est pour pouvoir être performant au très haut niveau, il faut suivre une diététique qui va avec. Hein.
Ouais, spécifique.
Spécifique.
Ah ben, tout à fait. Pour être joueur professionnel, il faut quand même faire attention à soi. Le bol alimentaire, avoir des notions diététiques. Allô? Allô?
T'es reparti pour la One Dance avec Chems. Nous sommes avec Thomas Dossévi, ancien international
togolais.
Togolais, oui, très très bon joueur qui est avec nous en direct au téléphone.
Ancien professionnel du FC Nantes aussi, il faut le signer, ouais. Signaler, c'est très important.
Exact.
Voilà, parce qu'il a fait 2-3 ans, je pense.
Alors, moi, j'ai une question, Thomas Dossévi.
3 ans.
La Coupe du Monde, quel souvenir vous gardez, justement, parce que, on le rappelle, le Togo a été en Coupe du Monde, quand même.
Ah oui.
Ah, il faut le dire, on l'a presque oublié, ça.
Donc ça, c'est un souvenir intarissable.
Intarissable.
Racontez-nous comment vous avez vécu ça. Parce qu'on avait Émile Mbou la dernière fois où on a parlé de ce fameux Cameroun-Argentine. Quart de finale en Coupe du Monde 90 entre le Cameroun et l'Argentine.
Les anecdotes de vestiaires.
Des échauffements. Alors, les Togolais vous écoutent.
Ça a fait peur aux Argentins.
On aimerait avoir justement quelques anecdotes un peu croustillantes, justement. De la participation du Togo à cette Coupe du Monde. C'était comment dans les vestiaires et comment ça se passait?
Pour nous, c'était génial, hein, c'est clair. Donc, on avait réussi à se qualifier en éliminant le Cameroun.
Ouais.
Donc, en sortant le Cameroun, c'était une des premières fois que le Cameroun ne participait pas au mondial.
Une Coupe du Monde, ouais. Ça pique.
Je pense que ça pique les Camerounais qui
écoutent
là.
Pourquoi vous rappelez ça?
Les indomptables ont été domptés.
C'est surtout une fierté aussi, parce que ça voulait dire qu'on ne volait pas notre place, quoi. Si on était en mondial, c'est qu'on avait réussi à sortir le grand Cameroun.
Les éperviers ont dompté le lion. À cette époque. Ouais.
Et moi, je me souviens vraiment des stades magnifiques parce que faut être clair, en Allemagne, les stades, ils ont une avancée technologique.
Ils sont en avance.
Beaucoup de pays et on a vu des stades magnifiques. Et bah, pour ma part, moi j'ai joué 2 matchs, donc j'ai eu la chance de jouer contre la Suisse et je suis rentré contre la France. Donc voilà, quand on.
Bon souvenir. T'as joué avec ton pays et contre ton pays aussi, parce que la France est ton pays aussi. Tu es métissé, il faut le dire aux auditeurs quand même.
Ah oui, bah, métissé, ouais.
Voilà.
Papa togolais et
maman française.
Voilà.
Quelles sont les sensations quand tu es togolais et français, tu joues
contre la France.
Tu te sens plus français ou plus togolais, c'est ça?
Non, j'étais 100% togolais sur ce match.
Oui.
La France devait nous battre 2-0. À ce moment-là, il y avait encore que 1-0, donc la France n'était pas qualifiée pour passer le tour d'après. Mm-hmm. Moi je jouais pour mon pays, le pays c'était le Togo.
Alors, quels sont les faits marquants en tant que acteur justement ayant participé à cette Coupe du Monde? Qu'est-ce qui personnellement vous aurait marqué?
Déjà c'est notre premier but en équipe de l'équipe nationale.
En une Coupe du Monde.
Voilà, donc c'était contre la Corée et Kouba Djakader qui marque. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Mmh. Et puis après, bah, moi, c'est mon entrée contre la France aussi parce que j'étais pas prévu de rentrer sur ce match. Et moi, j'ai interpellé un peu Otto Pfister qui était le coach à ce moment-là.
Et il a mis la pression.
Chez Adebayor, il avait mal au ventre. Et le coach n'osait pas le sortir parce qu'évidemment, c'est notre fer de lance, c'était le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Hein. Mais sur ce moment-là, il avait un mal au ventre incroyable et le coach n'osait pas le sortir. Mmh. Et je voyais que ça faisait déjà un quart d'heure qu'il marchait et j'interpelle le coach, j'ai dit coach, voilà, sortez-le quoi.
Il faut que j'entre.
À la base, j'étais pas prévu de rentrer et en ayant fait ça, et je suis rentré quoi.
Ah, c'est super, il fallait tenter le coup quand même, tu l'as fait. Ça montrait ta détermination à vraiment jouer.
C'était pas la base, à la base, cette réflexion-là n'était pas dans un but de rentrer en fait. Mm-hmm. J'ai juste fait un constat et c'est vrai que les entraîneurs adjoints m'ont regardé, ils se sont dit mais il a raison. Et puis du coup, je suis parti à l'échauffement et je suis rentré.
D'accord.
Parce qu'on se rappelle, hein, c'était en 2006. Hein, je pense France Togo France Hein, oui. C'était une très grande rencontre. Je me rappelle du classement. Je crois qu'il y avait Agasakossi dans les buts, Tchangay, Abalo, Nibombé, ouais. Forson. Il y avait Senaya, il y avait Salifou, il y avait bien sûr Emmanuel Chehi, Adebayor, Mohamed Kader, Otto Fister, qui était l'entraîneur de cette équipe des Éperviers du Togo face à la France. Ouais. La France, il y avait quand même un certain, notamment Claude Makélélé, David Trezeguet, Thierry Henry, Franck Ribéry, Sylvestre, Galas, Thuram, Sagnol, Barthez dans les buts. C'était une grande équipe de France quand même.
Une grande équipe de France.
C'est peut-être l'une des plus belles, oui. Il y avait aussi Thierry Henry, Patrick Vieira, Stéphane Peters.
Ouais. Mais c'était une équipe aussi en transition. Hein. C'était une transition qui venait d'être faite aussi. Hein. Donc,
oui, oui, oui.
Donc voilà, mais c'était très honorable de la part du Togo, et votre prestation a été très très honorable face à la France. On se rappelle très bien.
Ah oui, on a offert une bonne résistance, je pense.
Ouais. Malgré les deux buts à zéro de l'équipe de France.
Exact, exact.
Voilà. Thomas, je voudrais qu'on revienne encore un tout petit peu sur la thématique de reconversion. On a recueilli, hein, on va dire, les sentiments de beaucoup qui t'ont précédé, et comment on vit cette période, c'est-à-dire que comment on l'appréhende, est-ce que quand on arrête, la frustration, beaucoup ont été frustrés, beaucoup ne savaient pas comment se positionner, voilà, toi comment tu l'as vécu, cette transition et cette reconversion?
Plutôt bien. Après, ce qu'il faut, c'est réussir à canaliser son énergie, parce que quand on est joueur professionnel, on se dépense beaucoup, beaucoup pour, et on s'investit beaucoup dans ce métier, notamment physiquement. Et le problème quand on arrête, c'est qu'on n'a plus cette dépense énergétique. Donc il faut savoir la recréer.
Tout à fait.
Donc, moi, j'ai pratiquement jamais arrêté le sport. Donc, voilà. Pour me permettre d'avoir cette petite décharge d'adrénaline qui me permet de me dire. Voilà, je suis encore actif.
Tout à
souvent,
fait.
Les joueurs se demandent ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont l'impression de ne plus être actifs, ne serait-ce que physiquement.
Ouais. Donc, parfois, on a un changement physique extraordinaire.
Énorme, hein. Justement, ils viennent le dire.
Quand je regarde Ronaldo aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'il a vraiment été le meilleur attaquant du monde?
Il est un peu malade, Phil. Lui, je pense, c'est un peu lié aussi à un problème de santé.
De santé.
Mais d'accord. Sinon, tu as raison, Phil. Et ils viennent le dire, Thomas, c'est-à-dire, lui, il a quand même gardé ce flux, cette idée de se maintenir.
Mm-hmm.
Le risque.
Disons que. C'est vrai que je trouve dommage d'avoir été adulé et faire attention à son corps pour être professionnel, et puis sous prétexte qu'on ne l'ait plus, tout relâcher.
Tout relâcher, exactement.
Devenir,
c'est l'erreur.
Énorme.
Ça, c'est l'erreur.
Je trouve ça frustrant, et puis c'est toujours triste de se dire tiens, vous voyez, lui, ça a été un joueur. Ah bon, mais vous voyez comment il est maintenant.
Ça donne pas envie de faire du sport de haut niveau.
Exactement.
Mais moi, je pense qu'il y a une volonté réelle, comme tu l'as dit, comme tu viens de l'expliquer en ce qui te concerne, de vouloir maintenir une forme, ne serait-ce que physique. Et après, mental aussi. Parce que quand on est bien physiquement, tu le sais très bien, hein, c'est le mental qui tient aussi le sportif de haut niveau. Et on est bien mentalement, et on arrive à être bien dans sa peau.
Mais tout à fait. Mais c'est aussi, on parle de crédibilité. Quelqu'un qui va être entraîneur après, s'il peut pas faire une démonstration de quelque chose qu'il veut transmettre aux enfants, quelqu'un qui peut plus ne serait-ce que courir ou faire une passe, parce qu'il est trop gros, parce qu'il n'a pas la bonne santé, c'est compliqué d'être crédible.
Tout à fait.
Pour pouvoir avoir une crédibilité, et ça passe par là.
Tout à fait. Et donc après maintenant, aujourd'hui, le Covid, quand même, il a. On revient à l'actualité, à ton actualité. Mmh. Tu m'expliquais que le Covid est passé par là, hein, puisque tu. Après. Le Standard, en tant que recruteur, tu rentrais dans le costume d'entraîneur adjoint. Et,
voilà.
Et puis ouais, aujourd'hui, à cause du Covid, les équipes amateurs ont.
Au niveau des clubs professionnels et amateurs, il y a de la coupe. Hein. Le Covid a fait beaucoup de mal à beaucoup de clubs. Et moi, j'étais entraîneur adjoint donc, à Boulogne, sur mer. Donc, on était en passe de monter avec le Covid. tout s'est arrêté. Et c'est vrai qu'au niveau budgétaire, le club a subi des gros problèmes.
Ouais.
Donc voilà, maintenant je suis en recherche d'un bon projet aussi, que ce soit être dans un staff ou au recrutement. Et puis voilà.
D'accord. Et as-tu gardé des liens avec le Togo ? Est-ce que tu y vas régulièrement ? Est-ce que tu as gardé des liens avec certains anciens de ta génération, cette génération de 2006 ? Tu as des nouvelles ?
Oui, j'ai des nouvelles de Jean-Paul Abalo, qui est entraîneur de l'équipe nationale U20. Il est aussi entraîneur adjoint. J'ai de temps en temps Agassa, qui est aussi entraîneur des gardiens au niveau de l'équipe nationale. Et oui, j'ai souvent notre ami Robert Malm.
Ouais, Robert.
Qui est sur Bein
Sport.
Voilà, donc je l'ai de temps en temps aussi.
On espère l'avoir ici, sur le plateau.
Ah bah oui, je lui passerai le message.
D'accord.
Alors justement, avant de se quitter, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui peut rappeler de tristes souvenirs. Il y a une dizaine d'années, l'équipe de football du Togo avait été attaquée à Cabinda. Je ne sais pas si vous avez encore le souvenir. À Cabinda.
C'était Cabinda, c'était voilà. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations.
Exactement. Donc, quel souvenir est-ce que vous étiez déjà dans cette aventure ?
Ah bah oui, j'étais dans le bus.
Ouais, dans le bus.
Ah ouais.
Ouais, donc moi j'ai vu du sang partout. C'était une catastrophe. Hein, c'était une catastrophe.
Est-ce que entre anciens joueurs, vous en parlez des fois justement de ce triste souvenir de cette épopée?
Non, on en parle pratiquement plus. C'est quelque chose qu'on sait, on se regarde et rien qu'en se regardant, on comprend si on a besoin d'en parler ou pas, et c'est pas quelque chose qu'on oubliera. C'est quelque chose qui nous a choqué clairement, hein, mais maintenant on n'en parle plus, c'est vrai.
Voilà. Mais Phil, ce qui est triste avec cette histoire à cette époque, je vais en parler un tout petit peu, c'est que le Togo, ils ont quitté la Coupe d'Afrique des Nations et derrière la CAF les a suspendus.
Ouais.
Donc ils ont
dommage. Double peine.
Il y a eu la double peine, mais elle n'a pas été maintenue parce qu'évidemment ça fait un tollé. On est parti de la CAN pour enterrer nos morts. Quand on avait décidé de revenir, ils ont refusé alors qu'on aurait pu revenir. Et de deux, ils nous ont mis une suspension parce qu'on était parti de la CAN. Donc à partir de là, il y a eu vraiment les politiques qui se sont mis dedans et qui ont enlevé cette suspension-là parce que c'était pas possible. D'une, on se fait agresser, et de deux, on est éliminé pendant des années parce qu'il y avait une suspension qui courait sur deux ou trois canins. Donc c'était vraiment quelque chose de lourd.
Voilà, vraiment quelque chose de lourd.
Difficile
à vivre. On se rappelle, difficile à vivre, ce bus de l'équipe de football du Togo qui avait été mitraillé il y a une dizaine d'années maintenant. C'était à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On va bientôt se quitter, Thomas Dossévi. Votre actualité dans les semaines à venir, c'est ?
C'est de retrouver un projet plutôt intéressant qui est toujours lié au foot, que ce soit dans le recrutement ou dans de la détection. Peut-être que voilà, je passerai faire un petit tour dans les pays africains, histoire de voir s'il y a encore de nouveaux talents à pouvoir montrer en Europe, sans être un charognard, comme tu le présentes.
Mais il y en a, il faut le dire ça, Thomas.
Non, il faut absolument qu'on en parle. Parce que
notre objectif, c'est ça, c'est de sensibiliser.
C'est de dénoncer justement ce comportement de certains recruteurs qui brisent des vies. Et moi, voilà, il faut dire les mots comme il se doit. Et certains recruteurs qui arrivent d'Europe et qui font miroiter des choses à ces jeunes-là, donc il faut absolument dénoncer cet état de fait parce qu'il y a beaucoup de témoignages de ces jeunes qui se retrouvent véritablement en difficulté.
Non, c'est vrai, il faut un suivi derrière et puis même si ça se passe pas bien, au moins assurer le retour des gamins chez eux, quoi. On peut pas, c'est évident qu'on peut pas laisser des joueurs dans la nature sans rien, sans de quoi manger, sans de quoi vivre. Et c'est là-dessus où il faut effectivement sensibiliser tout le monde. Il y a quoi qu'on puisse en dire, il y a peu d'élus.
Voilà, tout à fait. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci Thomas Dossévi. Dernier mot, James.
Je voulais simplement remercier Thomas d'être passé dans notre chronique La Wandayans, qui est, comme il le sait, la performance, la résonance et l'excellence. Et puis je lui souhaite bonne chance dans sa quête d'un nouveau projet intéressant pour lui. Merci d'être passé.
Je te remercie, merci beaucoup, et puis merci pour votre émission, c'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Voilà, merci en tout cas, et passez une bonne journée. On en profite pour saluer les supporters des Éperviers du Togo, les Éperviers du Togo que l'on salue ce matin à travers cette chanson de Toufan, c'est Money.
Some money, do what they do it for money. L'argent, money, CD, sefa, kilo, dollar, naira, naira. L'argent, money, CD, sefa, kilo, dollar, naira, naira. Moi je passe, on me salue parce que j'ai trop d'argent.
Et quand je salue, tout gesticule parce que j'ai trop d'argent. C'est jour de fête, oh, parce qu'il y a trop d'argent.
Ah, chérie, go, go, follow me, go, parce qu'il y a trop d'argent.
Elle me dit, je t'aime, barra style, à cause de mon argent.
Ah, elle me dit, master, tu es fancy, à cause de mon argent.
Fan à l'instant avec Money. Encore merci à Thomas Dossévi, ancien international des Éperviers du Togo, qui était donc notre invité dans le cadre de la Wandayans. Oui, on va enchaîner avec notre prochain invité dans quelques instants, Amine Sonidey, qui va nous parler notamment de son univers artistique. Mais d'abord, on marque une pause et on revient juste après en vous rappelant qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas le droit et nous, tout simplement, parce que Aliou Tall, pour des raisons de santé, ne sera pas avec nous ce matin. On lui souhaite un prompt rétablissement pour Aliou Tall. Ne bougez pas.